Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Cette campagne, mais c'est une campagne de merde.
À 1,5% dans les sondages, pourquoi continuer? Parce que moi, les sondages, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre.
Nous sommes en guerre.
On va discuter avec M. Poutine, puis après j'irai voir M. Biden.
Et dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop.
Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien?
Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.
Je m'en fiche royalement. Totalement présidentiellement.
Là là là, est-ce qu'on s'en fiche? Est-ce qu'on s'en fiche pas? Ça y est, nous sommes en route, cher auditeur de Sud Radio, cher Sud Radioiste, pour le second tour. Alors c'est joué, c'est parti comme en 2017. Le Pen, Macron, Le Pen, magnifique, hein. Et on dit que, quoi, c'est tout change. Il faut que tout change pour que rien ne change. La fameuse phrase de Lampedusa. On va en parler, on va prendre le temps d'en parler parce que, voilà, parce qu'il vaut mieux être peut-être des citoyens conscients que des moutons à œillères. Il vaut mieux être effectivement des diamants à mille facettes que des unidimensionnels, des hommes et des femmes unidimensionnels, hein, des moutons à tondre, non, des mutins de panurge, comme disait Philippe Murer. On en parle tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et le seul dans tous mes états, vous imaginez les rédactions, les états-majors, les conseillers, les lobbyistes, les cabinets conseils sont tous dans tous leurs états, parce qu'ils disent, mais qui va sortir du chapeau? Qui va être, y a-t-il suspense d'ailleurs, ou n'y a-t-il pas suspense? Eh bien, on est effectivement à moins de 2 semaines du second tour qui va désigner le nouveau locataire ou l'ancien locataire de l'Élysée. À tout de suite, on en parle.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Je suis parti avec elle, vieux canard. Oui, je suis parti avec elle, vieille canaille. Oh. En apportant la vaisselle, le cilien en rotelle, des cassettes au magnéto, vieux chameau.
Ordure, etc.
Vous avez reconnu évidemment Eddie Mitchell et Serge Gainsbourg. Non, c'était pas Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. D'ailleurs, ce serait formidable. Vous imaginez, ce serait pas autre chose, hein, si nous avions effectivement Mélenchon et Macron qui seraient traités de vieilles camailles. Tu es parti avec elle, la République, bien sûr, et tu as même pris la vaisselle, vieux chameau. Ah oui, ce serait assez joli, oui. Malheureusement, c'est pas à ce niveau, hein. C'est plutôt petits bras, et pas très joli, petits bras. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, ça a été formidable quand même, soyons clairs, les consignes de vote. Eh oui, il y a eu des consignes de vote, tout de suite, partout, etc., les consignes de vote. Alors évidemment, c'est quoi les consignes de vote? On se dit, oui, vous avez voté pour moi, chère Française, chers Français, donc je vous donne mes recommandations pour le second tour. Je ne suis plus là, hélas, je ne comprends pas, d'ailleurs, que je ne sois plus là. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas voté pour moi alors que j'étais le bien, le bon, j'allais sauver la France, et non. Tous ces gens-là, vraiment, c'est incroyable. Anne Hidalgo, la Jeanne d'Arc, Valérie Pécresse, c'est Marie Curie, elle allait sauver la France. Tous, Yannick Jadot, le dépollueur en chef, et même Jean-Luc Mélenchon, la voix des quartiers populaires. Vous l'avez pas voulu d'eux. Éric Zemmour aussi, oui, le tribun, l'intellectuel, le journaliste, vous l'avez pas voulu de lui. Eh bien, alors, il faut qu'ils donnent leur conseil. Eh bien, tous donnent leur conseil. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, toute la gauche, eh bien, le conseil, c'est très intéressant, c'est, eh ben, voter Macron, sinon, C'est le fascisme à nos portes. C'est Hitler. Ce sont les panzerdivisions de Guderian qui franchissent les Ardennes. Vous imaginez, c'est l'occupation, etc., etc., etc. C'est formidable. Relisez votre livre d'histoire, crise des folliculaires apeurés. Magnifique. On est en 2022, mais ça ne fait rien. Allez, on est en 1940 pour un certain nombre de gens. Bon, ça les amuse et puis c'est leur intérêt. Mais c'est quand même absolument paradoxal, paradoxal, que ce soit le Parti Socialiste, tout de suite, les écologistes, les trotskistes, ils auraient pu quand même... Je suis très étonné, je ne sais pas, moi, dire, bah, écoutez, on veut le blanc, on ne le veut évidemment pas de Marine Le Pen, il n'y en est pas question. Enfin, Emmanuel Macron non plus. Ah non, 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 ils ne disent pas, on ne veut pas d'Emmanuel Macron, ils appellent à voter Emmanuel Macron. Ou alors, ils font comme Jean-Luc Mélenchon, voici ce qu'il disait le soir du premier tour.
Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
Et oui, il a été obligé de le redire trois fois parce qu'on l'avait reproché, rappelez-vous, on l'avait reproché d'avoir rien dit le soir de 2017, du premier tour de 2017, il n'avait rien dit. Donc là, il fait amende honorable, il fait le bourgeois de Calais, il revêt sa bure, et il dit « Regardez, pas une voix !» Bon, très bien, mais très bien, et c'est normal, et c'est logique, et c'est cohérent. Mais alors, il pourrait pas dire aussi bah « Écoutez, peut-être... » Pas une voix à Emmanuel Macron. Écoutez, votez blanc. Votez blanc. Et qui le fait ? Alors, c'est intéressant de voir qu'au fond, ceux qui le font, c'est un certain nombre de républicains. La droite, oui. La gauche, ah non, 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 la gauche, personne, attention. Tous unis contre le fascisme. Donc, on se retrouve avec un front républicain, uniquement d'un côté. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir ça. Enfin. Mais chez les Républicains, Éric Ciotti, Julien Aubert, Guilherme Carayon n'appelleront pas à voter pour Emmanuel Macron, mais tous les autres, et évidemment à leur tête, la statue du commandeur, Nicolas Sarkozy, évidemment, appellent à voter. Très bien. Mais c'est quand même intéressant cette histoire, c'est que pendant tout le mandat, ou presque, d'Emmanuel Macron, ils se sont opposés évidemment à sa politique en disant « c'est pas possible », et il y a quelqu'un qui l'a fait, mais de manière encore beaucoup plus violente que Marine Le Pen et que Éric Zemmour. C'est Julien Aubert qui vient de publier hier, Julien Aubert, le député Les Républicains du Vaucluse. Alors lui, je vais vous dire, hein, à côté Emmanuel, Marine Le Pen, c'est le couvent des Saintes Marie de la Mer. Enfin, je veux dire, lui, mais écoutez, juste je vais vous lire une petite chose. Emmanuel Macron, je lis et je recite Julien Aubert. Emmanuel Macron, pour tous les Français, c'est le déhanché de Castaner en boîte de nuit quand Paris s'embrase. Griveaux qui moque des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. L'autorisation des chimères hommes animales, les zones à faible émission, les LBD utilisés de travers, la tentative diplomatique avortée de résoudre devant les caméras en quelques semaines 40 ans de conflit au Liban, les éoliennes par milliers, l'évacuation catastrophe du Mali, etc., etc. Mais pas savoir. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, AMSC, dont les dirigeants ont un lien familial avec son bras droit, Alexis Kohler. Mimi Marchand, bien sûr, fermer Fessenheim et rouvrir des centrales à charbon, Microsoft, tout, mais alors il y va à mort, je veux dire, c'est quand même incroyable. Évidemment Alstom, évidemment les cabinets McKinsey, tout ça, Julien Aubert, c'est incroyable. Il dit, regardez, il finit comme ça, je veux dire, il faut le faire. Hein. Il dit, les chômeurs qu'il faudrait mieux traverser la rue, la vente d'Aéroport de Paris, la suppression démagogique de l'ENA, l'élargissement du regroupement familial aux frères et sœurs de mineurs isolés, les propos honteux sur les mâles blancs, le t-shirt violence policière porté par Macron, McFly et Carlito qui suppléent Attali et Malraux, l'humiliation du général de Villiers, une dette qui a gonflé de 560 milliards d'euros en deux ans, la nomination d'amis socialistes en masse à la Cour des comptes, au Conseil d'État, à la Cour de cassation, etc., 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 et j'en passe et des pires. Alors franchement, Julien Aubert, là, c'est vraiment le j'accuse d'Émile Zola. Hein. Bon. Et en même temps, voilà, les choses continuent, et quand même ces espèces de consignes de vote, C'était très étonnant. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est que qu'est-ce que ça va être quoi ? Qu'est-ce qu'on va choisir ? Oui, alors François Asselineau aussi, qui dit... assez joli le tweet de François Asselineau. J'ai mutilé à vie des dizaines de gilets jaunes. J'ai dilapidé des milliards d'euros pour Pfizer et McKinsey. Je détruis hôpitaux, écoles, services publics. Je vais réimposer passe vaccinal, porter la retraite à 65 ans et ruiner le niveau de vie des Français. Je suis le candidat du Parti Socialiste, du Parti Communiste Français, des écologistes, de la France Insoumise. « Je me marre !» écrit Asselineau. Et c'est vrai qu'il a raison, en fait. Je reconnais, moi, Emmanuel Macron a raison. Il a eu raison d'abord de se marrer. Il a raison aujourd'hui de se marrer. Il a raison aujourd'hui, effectivement, de dire que... c'est assez étonnant aussi. Il a raison de dire que... Il n'avait pas à faire campagne, mais c'est vrai, il y avait eu la guerre en Ukraine... Puis il y avait tout cela, il était occupé évidemment à gérer la France. Donc qu'est-ce que vous aimez embêter avec vos débats ? Oui, les grands débats avec les Français, sans problème. Mais les débats avec Zemmour ou Marine Le Pen, etc. J'en ferai un, évidemment, je suis obligé entre les deux tours. Mais le reste, il n'en est pas question, quoi, je veux dire, c'est clair. Et puis, il y a cette chose absolument formidable, c'est que, il a compris qu'il fallait rester au centre, qu'il fallait rester plastique, qu'il fallait prendre à droite, prendre à gauche. Il fallait continuer, effectivement, à renvoyer tous les partis politiques en soins palliatifs, ce qui est le cas, ça y est, c'est fait, hein, il faut le dire, regardez, on en a parlé déjà hier, vous le savez, auditeurs de Sud Radio, mais regardez ce qui se passe, ce n'est plus une EHPAD, c'est, c'est le columbarium du Père Lachaise, quoi. On y est, tout le monde est parti, tout le monde est mort, et on entend quelques voix comme ça qui circulent, effectivement, un peu dans le désert. Et qu'allez-vous faire ? Eh bien, écoutez, que chacun fasse et vote selon sa conscience, que chacun fasse son boulot. Mais je répète et je dirai, je radoterai ça. Si vous voulez voter blanc, si vous voulez voter Macron, si vous voulez voter Marine Le Pen, c'est votre autonomie, c'est votre droit. Et qu'aucun sondage, qu'aucune consigne de vote... qu'aucune instruction, qu'aucun conditionnement, qu'aucune manipulation ne vous atteigne. Vous êtes des hommes et des femmes libres. Vous savez ce que ça veut dire, libre ? Libre, ça veut dire responsable. Ça veut dire que vous avez une conscience pour décider. Ça veut dire que vous avez votre autonomie pour voter. Alors, les sollicitations, les pubs, etc., et les statistiques, etc., faites-en ce que vous voulez, mais faites-en des cocottes en papier et jetez-les à la poubelle. Ne pensez qu'à vous. On veut tous vous infantiliser. Les pouvoirs, ils ne veulent que ça. Quel que soit le pouvoir, droite et gauche, compagnie, ils veulent vous infantiliser. Ils veulent vous réduire à la fonction de robot. Eh ben, ne vous laissez pas faire. N'acceptez pas de vous laisser faire. Vous allez aux urnes parce que pour le moment, c'est la seule chose qui reste, puisqu'il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne, puisqu'il n'y a pas de référendum d'initiative populaire, puisqu'il n'y a pas le reste, puisque ce n'est pas en manifestant qu'on va régler les choses. Hélas, peut-être que ça aurait été bien. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais en attendant, vous allez faire quoi ? Eh bien, allez aux urnes. Et puis vérifiez s'il n'y a pas de trucage, s'il n'y a pas de tromperie, s'il n'y a pas des machines à voter qui ne fonctionnent pas bien. Je ne le pense pas, en France en tout cas. Mais il vaut mieux vérifier. Vérifier les bulletins, vérifier. Soyez assesseurs, soyez là, soyez présents. Eh oui, une fois tous les 5 ans, vous savez, c'est pas mal, c'est pas terrible. Ça fera 2 heures de moins au soleil, 3 heures de moins au soleil, vous les rattraperez largement. En attendant, vive la vie, vive le pays, vive nous, et vive la manière de respirer le plus haut possible. Et n'oubliez jamais cette phrase absolument magnifique de René Char, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Je nous souhaite la lucidité la plus totale.
Et si le coup de gueule d'André Bercov vous fait réagir, vous nous appelez évidemment au 0826 300 300, et puis je suis sûr que Marc Menant se fera aussi un plaisir de vous répondre dans quelques minutes.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et pendant ces élections et pendant l'entre-deux-tours, évidemment, la guerre continue. Hélas, la guerre continue en Ukraine. Et on a parlé aux informations. Le port de Mariupol aurait été occupé par les Russes. La ville est pratiquement prise. Qu'est-ce qui se passe exactement et surtout les bruits qu'on a entendus du côté de l'usine d'Azovstal. Alors nous sommes avec Jacques Beau, qui est ex-membre du renseignement stratégique en Suisse, qui a été effectivement responsable de l'OTAN pendant quelques années, et surtout au moment de la prise du pouvoir en 2014 en Ukraine. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Attendez, on vous entend. Oui, on vous entend bien là. On vous avait reçu il y a quelques jours, effectivement, pour la situation sur le front, ce qui se passait vraiment. Et là, très spécifiquement, il y a deux informations qu'on voudrait voir avec vous et voir si vous avez des informations supplémentaires sur ce qui se passe à Mariupol. D'un côté, effectivement, est-ce que la ville est déjà pratiquement complètement prise par les Russes, et surtout, à Mariupol, il y a Azovstal. Il y a cette usine d'Azovstal transformée en bunker, où il y a à la fois le bataillon Azov, et où on a vu quelques vidéos, et où la rumeur, en tout cas, a circulé, je dis la rumeur tant que c'est pas une information, qu'il y aurait eu quelques officiers de l'OTAN, notamment des gens de la DGSE français, des Allemands, des Américains, le général Cloutier. Qu'en est-il exactement, Jacques Beau? Est-ce que vous le savez?
Je pense que personne n'a la réponse définitive à cette question. En fait. Ouais. La ville de Mariupol est aux mains des Russes, ça, je crois qu'on peut le dire.
Oui.
Vous m'entendez mal?
Oui, on vous entend pas très bien. Peut-être prenez votre téléphone, je ne sais pas. Oui, écoutez, Jacques Beau, on vous appelle, il fallait le prévoir ça. On vous appelle par téléphone tout de suite, parce qu'on vous entend pas très très bien. Donc, appelons-le par téléphone pour savoir exactement ce qui se passe.
On va faire un trait d'humour avant ça, et puis après on reprend avec vous.
Non, mais en plus, ce qu'on peut dire aussi, Augustin, c'est que le chef du renseignement militaire français a quitté son poste, faute d'avoir, dit-on, suffisamment alerté sur le risque de guerre en Ukraine. Je rappelle que le général Éric Videau est remercié 7 mois seulement après sa nomination. Le général Éric Videau, qui était le patron de la direction du renseignement militaire, hein, le général Éric Videau. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Jacques Beau, on vous entend, je crois, mieux maintenant.
Voilà.
Voilà, très bien. Là, c'est parfait. Alors, dites-moi, sur Mariupol, justement, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors, Mariupol, je pense qu'on peut dire que la ville est tombée aux mains des Russes. Elle est dans sa plus grande partie, en tout cas, aux mains des forces, je dirais, de la coalition russe, puisque il y a des forces armées russes, mais il y a surtout les forces armées des républiques du Donbass, n'est-ce pas, les deux républiques indépendantes. Mm-hmm. Et puis les Tchétchènes, bien sûr, qui sont ceux qui ont mené l'essentiel, ou une grande partie, disons, du combat dans les zones habitées.
Parce qu'ils sont habitués au combat de rue, je crois, à la guérilla urbaine, si on peut dire.
Exactement. Ce sont des spécialistes du combat de localité, et c'est la raison pour laquelle ils ont été amenés sur zone. Maintenant, il reste effectivement le secteur de Azovstal.
Alors Azovstal, qu'est-ce que c'est Azovstal, justement? Parce que...
Oui. Alors Azovstal, c'est un immense complexe industriel. Certains disent que c'est le plus grand du monde, qui a été construit depuis les années 20, déjà, donc de 1920.
Ah oui, un siècle, oui, d'accord.
Oui, oui, tout à fait. Oui, et c'est là qu'étaient construits les chars, par exemple, les chars T-34, célèbres de la Deuxième Guerre mondiale. Une partie d'entre eux a été produite là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'immense, un immense complexe industriel et métallurgique, qui est resté en activité, qui s'est modernisé bien sûr depuis, mais qui est resté en activité, et surtout qui a des souterrains absolument gigantesques. On parle de 24 kilomètres de souterrains qui sont évidemment sous cette installation qui maintenant, certains décrivent aujourd'hui comme une sorte de forteresse au sud de Mariupol.
D'accord.
Et puis, on estime qu'il y aurait encore plusieurs milliers, c'est des estimations, on parle de 3 000 à 4 000 combattants qui resterait encore dans cette fabrique.
Dans ce complexe, oui.
Dans ce complexe, exactement. Mm-hmm. Et qui seraient essentiellement des gens, des milices Azov, oui. des paramilitaires, en fait, ukrainiens.
D'accord.
Et le fait est que ces derniers, à la fin du mois de mars, on a vu plusieurs tentatives héliportées pour essayer de faire sortir des individus, pour oui. exfiltrer des individus de cette zone. Alors ça a évidemment éveillé les soupçons et les imaginations ont commencé à, comment dire,
oui.
à se développer,
à fantasmer,
peu, à
oui, oui.
Voilà, exactement. Et il y a eu quand même 5 hélicoptères ukrainiens qui se sont fait abattre dans différentes opérations d'exfiltration.
Ah oui, 5 hélicoptères ont été abattus par les Russes, c'est ça.
5 hélicoptères ont été abattus, dont d'ailleurs, ironiquement, un hélicoptère a été abattu grâce aux missiles qu'avaient donné les Américains aux Ukrainiens.
D'accord.
Donc, ce qui montre que les armes qu'on livre, elles ont aussi, c'est des armes, c'est à double tranchant.
Elles peuvent être, oui, elles peuvent être pillées aussi. Alors, voilà. Est-ce que, alors, on l'a dit aussi, alors Jacques Beau, et on l'a dit que sur 2 de ces hélicoptères qui ont aidé, il y avait des officiers étrangers, des militaires étrangers. On n'a pas la certitude, c'est une supposition jusqu'ici, ou pas?
Alors, certains des hélicoptères qui ont été abattus sont tombés en mer et, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait retrouvé les corps et je ne pense pas qu'il y ait de survivants non plus.
D'accord.
Il y a des hélicoptères qui semblent être tombés sur la terre ferme et dont on aurait, ou dont les Russes auraient les pédigrés parce qu'il y avait des cartes d'identité, des documents, des choses comme ça.
Oui.
Et là, en fait, on ne sait rien. Les Russes n'ont pas laissé sortir d'informations. Il y a certaines informations qui sont passées sur les réseaux sociaux, mais je ne leur donne pas beaucoup de crédit. Mmh. On parle d'officiers étrangers, mais ça, c'est très confus et très contradictoire.
Oui. Et cette photo, excusez-moi Jacques Beau, cette photo du soi-disant, enfin je dis ça, général Cloutier, général chef américain, et cette vidéo qu'on a vue, mais effectivement les visages étaient floutés, tout ça est du ressort encore de la supposition. Parce qu'on a nommé oui. le général Cloutier, c'est pour ça.
Il a été nommé à plusieurs reprises, et puis ça a été démenti, là aussi, je pense qu'on est un petit peu dans les conjectures à ce stade.
D'accord.
Ce que l'on peut dire, probablement oui. avec une certaine, disons, un certain niveau de confiance élevé, c'est que les Russes disent avoir capté des messages sortant du complexe, des messages téléphoniques,
oui.
et ils ont enregistré 6 langues européennes. C'est parmi les messages qu'ils ont entendus. Donc, ils ont précisé lesquels, mais ils parlent de 6 langues européennes. Mmh. Alors, l'information est suffisamment vague pour qu'on puisse dire que c'est probable, vu que les milices Azov sont composées en grande partie de volontaires et de volontaires étrangers. Il est parfaitement possible d'avoir entendu
oui.
langues étrangères. Mmh. Ça ne veut toujours pas dire que ce soit des officiers d'active occidentaux en mission dans ce complexe. Donc mm-hmm. ça, il faut être bien clair là-dessus.
D'accord.
Ceci
tout à fait.
Étant, des mm-hmm. rumeurs ces derniers jours sont venues encore renforcer d'autres rumeurs. On parle de, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment il y a eu des combats, pas seulement à Mariupol, mais aussi dans la région de Nikolaïev.
Oui.
Il semblerait que des officiers étrangers basés sur Nikolaïev se soit replié sur Mariupol avec l'idée d'être évacué par mer.
Mmh, d'accord.
Et donc, on aurait, mais de nouveau, on est dans la spéculation.
Oui, mais vous êtes au conditionnel,
aurait,
donc voilà,
tout à
c'est
fait.
Clair. Oui.
On aurait des officiers étrangers qui seraient regroupés dans cette usine de façon à pouvoir être évacués.
Mmh.
On parle, mais de nouveau, c'est vraiment avec tous les conditionnels possibles, de 53 officiers français qui seraient dans ce complexe.
Mmh.
On dit aussi qu'il y aurait 37 Afghans. Et quand je dis Afghans, je parle de ces supplétifs que les Occidentaux avaient engagés en Afghanistan à l'époque pour des opérations spéciales,
oui,
qui ont
oui.
été exfiltrés l'année passée lorsque la chute de Kaboul, puis qui ont été réintégrés dans certaines dans les groupements de mercenaires ukrainiens l'année passée. Donc il y en aurait 37 là aussi, et puis il y aurait encore des combattants islamistes, donc des combattants qui seraient venus de la région d'Idlib en Syrie par la Turquie et qui auraient rejoint les milices ukrainiennes. Mais là, on est vraiment dans le domaine de la
spéculation.
Parce que les Russes restent extrêmement secrets sur ce qui se passe en réalité. Je pense que les Russes veulent garder une liberté de manœuvre par rapport à ce qu'ils pourraient trouver dans l'usine.
Et éventuellement échanger, éventuellement. Voilà.
Peut-être éliminer. Enfin, je n'en sais rien. Nous n'en savons strictement rien. Mais il serait évidemment plus judicieux de la part des Russes de ne rien dire pour l'instant, d'interroger ces gens une fois qu'ils les aient capturés, et puis après, éventuellement, effectivement, les échanger.
D'accord. Voilà. Alors, Jacques Beau, je rappelle que vous avez écrit ce livre très intéressant et dont on nous a parlé, Poutine, maître du jeu, aux éditions Max Milo. Sur un plan plus général, aujourd'hui, vous voyez, sans faire de prédiction, mais vous voyez une guerre qui se prolonge, parce que on voit très bien que d'un côté, l'Europe est en train, effectivement, d'aider l'Ukraine à non seulement sur les armes et sur les munitions, qu'il y a effectivement des problèmes de réfugiés par millions, et c'est terrible, enfin... Toute guerre est dramatique et il est hors de question de nier ou même de diminuer la responsabilité des Russes dans cette histoire. Mais aujourd'hui, avec Mariupol, dont le port aurait été occupé par les Russes, est-ce que vous voyez une guerre plutôt longue ou vous voyez quand même qu'au fond, ce que vous disiez dans votre livre déjà, les Russes sont quand même d'ores et déjà les maîtres du jeu, ou pas ? Compte tenu de la réaction occidentale et américaine, bien sûr.
Alors évidemment, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est le niveau opérationnel. Et au niveau opérationnel, on peut dire que les Russes n'ont pas encore atteint leurs objectifs à 100%, mais ils sont en passe de les atteindre. Donc Mariupol, ça fait partie de cet objectif de dénazification, entre guillemets. Et là, on y est presque, si j'ose dire. Mmh. Et puis, il y a l'objectif de démilitarisation qui vise le gros de l'armée ukrainienne qui est encerclée dans la région du Donbass. Et là, c'est une affaire de temps. Probablement que ça va encore durer quelques semaines pour que, opérationnellement, physiquement, ces troupes soient neutralisées. Maintenant, il y a l'aspect stratégico-politique, si on veut bien. Et ça, c'est le domaine des négociations, ce qui avait été entamé à Istanbul.
Ouais.
Et là, ce qui m'inquiète, c'est que, alors que Zelensky avait donné des signes de volonté de compromis avec les Russes, les Européens sont arrivés derrière et lui ont pratiquement fait tourner à 180 degrés. Donc j'ai l'impression que je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que j'observe aujourd'hui depuis la fin février, c'est que l'Union européenne et les Américains naturellement en sous-jacence, les Européens font tout pour que ce conflit continue. Mmh. On distribue systématiquement des armes, on décourage toutes les tentatives de négociation, et les seules tentatives de négociation qui aient eu semblent concerner l'incident de Mariupol qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir reprendre ou récupérer des officiers ou des personnalités qui seraient là.
S'ils étaient là, c'est ça.
Mm-hmm. S'ils étaient là, mais c'est ce qui explique un petit peu la gesticulation assez importante qu'il y a eu ces dernières semaines.
D'accord.
Entre notamment la France et l'Allemagne et la Russie.
Mais Jacques Beau, juste une mot par rapport à la seconde version, qu'est-ce qui amènerait, pourquoi l'Union européenne, surtout les Américains aussi. Bon, les Américains ont dit c'est pour vendre leur gaz de schiste, etc. Plus cher. Bon, on voit très bien. On va pas parler des conséquences économiques. On en reparlera. Mais pour le moment, qu'est-ce qui incite l'Union européenne, quel intérêt à l'Union européenne à ce que la guerre se prolonge, déjà à part le cortège et les horreurs. Mais quel intérêt l'Union européenne?
Alors, c'est une excellente question et je me demande si vraiment la réponse est dans le domaine du rationnel ou de l'irrationnel. On a quelquefois l'impression qu'il y a eu une dynamique qui s'est engagée à propos de la Russie. On sait que les Américains, et là je n'invente rien parce que c'est des stratégies qui ont été écrites, qui ont été énoncées très clairement sur le papier, les Américains ont bien comme objectif d'isoler la Russie et de la mettre à genoux. Ça, c'est un objectif qu'ils ont depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et on est, d'ailleurs, tout ce qu'on observe aujourd'hui en Ukraine a été écrit. On peut le lire pratiquement textuellement. Donc, il y a pas, de ce point de vue-là, il y a un objectif qui est bien de neutraliser la Russie.
Du côté des Américains. C'est un objectif américain,
mais c'est pas nécessairement un objectif européen. Et c'est là où je m'interroge beaucoup sur le pourquoi de cette intransigeance européenne. Parce que finalement, le fait que la Russie soit une dictature n'est pas une raison suffisante. Il y a d'autres dictatures dans le monde pour lesquelles on ne fait pas ça.
Certes.
Donc, il y a vraiment quelque chose qui est qui est dans le domaine de l'irrationnel dans cette affaire.
Merci Jacques Beau. Merci pour ces éclaircissements. On va évidemment suivre. Tout ça est à suivre. Et on espère vraiment quand même que tout ceci s'arrête. On voit bien qui en souffre et on voit bien toutes les conséquences, non seulement humaines, c'est le plus important, mais économiques et autres. On suivra ça, notamment avec vous, Jacques Beau.
Je rappelle que vous avez reçu il y a quelques semaines pour votre livre Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milo. Et puis dans un instant, on se retrouve avec Marc Menant et puis quelques perles d'André Bercoff.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Juste un moment, je vais jouer au président de la République, mais je vous assure, ça va durer exactement 30 secondes. Peuple de France, non seulement j'ai envie de t'emmerder, mais j'ai envie de t'emmerder affectueusement. Tu comprends ce que c'est, comment on emmerde affectueusement. C'est une figure de style qui est la mienne. Mais puisque je suis votre président, respectez-moi.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états, les perles du jour.
Emmerdante, emmerdeuse, emmerderait si tout. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde, vous dire.
Eh oui, l'immortel Georges Brassens, elle m'emmerde. Vous vous rappelez, c'est vrai, c'était une interview d'Emmanuel Macron au journal, au quotidien Le Parisien, et il rappelait, on l'interrogeait sur les non-vaccinés, et il disait cette phrase magnifique, il disait « Oui, je vais emmerder les non-vaccinés », et en fait... Il disait « j'ai envie de les emmerder ». Alors, il fait un peu sa tournée aujourd'hui, hein, de président, candidat. Évidemment, il y a eu donc une femme à Denain, il était à Denain dans le Nord, et une femme gilet jaune qui l'a interpellé sur cette déclaration, cette envie comme ça, emmerderesse. Écoutez.
C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, non, on était des sous-citoyens.
J'ai jamais dit sous-citoyens, madame. J'ai jamais dit ça. C'est pas mes formules.
Et donc. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit.
Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit.
D'accord.
Non,
c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, oui, bon, si vous le prenez
quand
comme ça.
Vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites.
Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je dis pas.
C'est pas ça, c'est une insulte.
Non.
Il est magnifique. C'est-à-dire qu'il est même d'abord, il n'a jamais dit sous-citoyen. Mais il a dit, excusez-moi, dans le même interview du Parisien, « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. » Alors il est quoi, si ce n'est un sous-citoyen? Et puis non, il est plastique, Emmanuel Macron, c'est ce qu'on aime chez lui, il est plastique. C'est-à-dire qu'il dit, moi emmerdé, mais attendez, c'est pas une insulte, je vous emmerde, c'est un mot gentil, quoi, je viens de vous voir, peut-être j'essaie de vous draguer, ah mademoiselle, vous savez, je vous dis quelque chose, je vous emmerde. On sort ce soir, vous me donnez votre numéro, on va peut-être passer un moment, et je vous assure, je vais vous emmerder, mais affectueusement, vous allez voir, ça va bien se passer, comme disait Gérald Darmanin.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Oh, 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 nique la police, nique la police, ben ça marche, hein, NTM, quand il dit nique la police, le jour du premier tour, hein, dimanche, à Sevran, des policiers étaient attaqués, blessés par les pavés au cri de « tuez-les » par une centaine de, comment on l'appelait, de citoyens, de délinquants, de racailles, je ne sais pas. Et alors c'est intéressant parce qu'on disait que les scores de Mélenchon, et Clémentine Autain a dit « ah mais à Sevran, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon faisait 55% au premier tour à Sevran, oui, oui, 55%. » Alors, pas d'amalgame, hein. On ne va pas dire que Mélenchon, ce sont les délinquants qui, ou les racailles qui votent Mélenchon, pas du tout, Mais enfin, c'est intéressant qu'on s'enorgueillit de scores absolument très beaux et même fabuleux, en même temps où à Sevran, et comme beaucoup d'autres villes, hein, on pourrait en parler, de Trappes, de Bobigny, de Roubaix, etc., c'est quand même intéressant, c'est là où Mélenchon fait ses scores les plus remarquable. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer comme ça un peu partout, tous les jours, en France, où des policiers, où on met le feu, où on dit nique la police, où on dit allez vous faire voir, etc., etc., tuez-les, bon. Espérons que, et je suis sûr que Jean-Luc Mélenchon est évidemment contre cela, mais est-ce que ça va se calmer? Et est-ce qu'on croit que ça va se calmer par opération du Saint-Esprit, ou on croit que ça va se calmer parce qu'il y aura des gens qui auront de l'autorité? Et qui aura cette autorité? Eh bien écoutez, qui votera, verra.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Quand tu danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses devant moi, je sens la vie qui va,
Gilbert Bécaud, quand tu danses devant moi. Et bien là aussi, vous savez, la culture woke, la cancel culture, mais ça continue, National Gallery de Londres, oui, l'un des musées les plus importants de la divine Albion. Eh bien écoutez, leur participation à l'effort de guerre est tout à fait remarquable. Voilà, il y a un grand tableau qui s'appelle de Degas, vous savez, l'immortel Degas, les danseuses russes. Eh bien, c'est ce qu'a fait la National Gallery, quand même. Quelle audace! Ils les ont rebaptisées en danseuses ukrainiennes. Voilà, ce n'est plus les danseuses russes de Degas, ce sont les danseuses ukrainiennes. C'est pas beau, ça. C'est pas du Jean Moulin, ça. C'est pas de la résistance, ça. Quand on arrive à un degré, vraiment, d'absence neuronale de ce point. Voilà, les danseuses ukrainiennes, voilà. Ça va tout changer, évidemment, au sort de la guerre en Ukraine. Voilà, la National Gallery. Eh bien, écoutez, je salue les responsables de la National Gallery. Quand le dernier neurone se bat avec l'avant-dernier, tous les désespoirs sont permis.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et nous sommes maintenant avec Marc Menant jusqu'à 14h, le journaliste et amoureux de la liberté, de l'art et de l'histoire que vous connaissez bien sur une autre antenne et qui publie l'inquiétante histoire des vaccins aux éditions Plomb. Bonjour Marc Menant.
Alors Marc Menant, mais bien sûr qu'on le connaît, on va le citer, il est sur CNews, il est historien, il fait d'ailleurs parmi les meilleures émissions d'histoire que l'on peut entendre avec Franck Ferrand, je crois toujours, hein. Oui. Et puis tous les jours avec Face à l'info, évidemment. Marc Menant, je le connais, allez, on s'est connus en 14-18 dans les tranchées. Non, mais c'est vrai, et j'aime son talent et j'aime ce qu'il est, ce qu'il fait depuis longtemps. Et là, il publie l'inquiétante histoire des vaccins aux éditions Plomb. Alors c'est une plongée, effectivement, Dieu sait si on en parle, hein, depuis un certain Covid-19, des vaccins, l'ARN messager, etc. Mais vous, Marc Menant, vous êtes remonté beaucoup plus loin, vous êtes remonté à Pasteur.
Oui, parce que on ne pouvait être qu'offusqué, et on va pas revenir au propos que vous venez de mettre en exergue de notre cher président, mais surtout de cet ascendant de la médecine, que dis-je, de cet accaparement de nos libertés par une certaine médecine. Parce que non seulement on veut que la santé aujourd'hui gouverne nos existences, mais pas n'importe quelle santé, celle qui est sous l'aune de la médecine allopathique qui détient.
Rappelez allopathique quand même, Marc.
Parce que c'est-à-dire c'est la médecine médecins. Des molécules, la médecine chimique, celle qui fait que nous sommes entourés d'ennemis et que ces ennemis sont là à l'affût. Toc ! Quand ils ont une opportunité, ils nous infiltrent et c'est la maladie. Bon, alors, il y avait tellement de choses qui me choquaient là-dedans, puis comme vous dites,
on s'est connus il y a très longtemps, et ce que l'on partage viscéralement, c'est ce goût de la liberté. On n'est pas les descendants de Voltaire, Diderot, et de tous ces personnages qui ont permis l'envergure intellectuelle, qui ont permis de déclaper l'homme du joug religieux, pour soudain accepter qu'au nom d'un principe, d'une science, qui n'en est pas une, que cette science nous oblige, nous contraigne et nous place sous masque. Tout le monde oublie les conséquences de cela. Les gamins en dépression, les adolescents, tous ces personnages qui étaient théoriquement dans cet élan, dans cet espoir un jour de connaître la prospérité intellectuelle. Eh bien, on les a figés, on les a enfermés dans les cours de récréation, dessinés des cercles, ils ne pouvaient plus s'approcher. Il y a des enfants qui ont découvert il y a seulement quelques semaines le visage de leur institutrice.
On va en parler, Marc Menant, après ceci. Je rappelle à tous les éditeurs du Sud Radio qu'au moment du sida, on couvrait une certaine partie de son corps. Avec le masque, on ouvre une autre partie, ça s'appelle l'ascenseur social. On en reparle tout de suite après les informations.
Et ce qui est bien, c'est que Marc Menant a encore beaucoup d'énergie à revendre, et heureusement, parce qu'il nous reste encore une heure, et vous nous appelez au 0826 300 300.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors je vais vous dire, je suis très heureux d'être avec Marc Menant pour sa dernière heure de liberté, car les fourgons de police l'attendent pour l'emmener à la santé, vu qu'il a écrit un livre où il ose dire...
C'est amusant, André, c'est d'être à la santé.
J'ai pas fait exprès, mais c'est très juste. Vu qu'il a fait un livre, attention, l'inquiétante histoire des vaccins, en tout cas à lire, vraiment, je veux dire que vous soyez d'accord ou pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, alors, il ne ménage rien ni personne, et moi-même j'ai été étonné à cette lecture. Attention, vous dites, grâce aux vaccins, la polio a été éradiquée, la rage, le tétanos, la fièvre jaune, on a tous fait ces vaccins quand on est en Afrique ailleurs. Moi, en tant que journaliste, pas 50 fois, je suis allé un peu partout, j'ai mis mon carnet de vaccination, j'étais rassuré. Eh ben non, dit Marc Menant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, expliquez-nous, Marc.
Alors, il faut savoir que c'est pas le matin, vous vous levez, vous dites, tiens, je suis anti-vax. Ça serait une sorte de prise de position religieuse, entre guillemets. Moi, d'abord, quand j'étais jeune, j'ai bouffé des mathématiques. J'aime la logique et je n'ai aucune raison de me dresser contre quoi que ce soit dès lors qu'il y a les preuves indubitables. Reste que certaines choses me chagrinaient. Comme j'aime l'histoire, je me suis dit, cherchons à savoir comment les vaccins sont apparus. Il faut essayer de voir aussi les épidémies. Le premier point d'interrogation,
oui.
Et c'est pour ça que je me suis dit, il te faut aller dans chaque cloison des épidémies, la période à laquelle ça se déroule. Mmh. Quelles sont les conditions...
Choisi par le biais des épidémies, quoi. Regardons, oui, bien sûr.
Oui, c'est le départ.
Bien sûr.
Parce que la première chose, on dit, voilà, les vaccins, heureusement, ils nous ont sauvés. Et avec cette perversion, ça va plus loin que ça, on dit, vous rendez compte, la grippe espagnole, s'il y avait eu le vaccin, mais on évitait le pire.
Oui, il y a eu des millions, des dizaines de millions
oui,
de morts.
Oui, non, mais je vais revenir tout à l'heure. Mais, rapidement, là-dessus, mais oui. Ce qui est extraordinaire, vous voyez, on fait une extrapolation. Est-ce que le vaccin contre le Covid a empêché la contagion alors qu'on nous disait qu'il va empêcher la contagion,
oui,
qu'il allait
graves,
empêcher, etc. Mmh, bref,
d'accord.
Bon. Alors, oui. La première interrogation, c'était sur la peste. La peste. Mais il n'y a pas eu de vaccin. Et elle a disparu. Et de là, j'ai fait tout un travail sur les grandes épidémies répertoriées depuis le début... Enfin, l'Antiquité, et on s'aperçoit. D'ailleurs, très souvent, quand on ne comprenait pas un phénomène, on l'appelait peste. Mais ce n'était pas toujours les mêmes symptômes. En revanche, à chaque fois, eh bien, l'épidémie disparaît. Et alors, il y a ce grand drame épouvantable qui emporte plus de la moitié de l'Europe en 1347. Bon. Que se passe-t-il
oui,
en 1347 ?
Oui, c'était énorme, massacre.
Première interrogation, donc, oui. Que vit-on à ce moment-là ? Et là, c'est comme une révélation. Je prends le roi Ladurie, la référence en matière de climat, quand même. C'est pas, je prends pas des oiseaux, vous voyez. C'est pas le gars qui se lève le matin, je répète l'expression, pour dire non, je veux des histoires avec des preuves. Donc je prends le roi Ladurie. Quelles sont les conditions que subissent l'homme en 1347? Eh bien, on s'aperçoit qu'on entre dans la grande, dans le pic de la quand on est au moment de la grande glaciation.
Ah oui, c'est ça.
C'est le pic de la grande glaciation.
La glaciation, oui.
Et là, les glaciers descendent pratiquement jusqu'à Grenoble. Ça entraîne une météo épouvantable. Cette météo épouvantable, elle entraîne quoi? Eh bien, l'impossibilité de bonnes moissons, l'été tout est inondé, l'hiver, on traverse la Seine avec des chars, des tombereaux qui sont tirés par des bœufs, c'est véritable sente.
Une route.
Vous imaginez quelles sont les conditions de vie. Alors là également, vous cherchez dans d'autres domaines les gens. Quels sont les endroits où ils se réfugient? Alors, vous avez les aristocrates qui disposent déjà de lieux plutôt, non pas confortables.
Non, mais protégés.
Voilà. Et les autres sont dans des galetas, entassés, dans des situations de promiscuité, où on est forcément laminé parce qu'il n'y a pas assez pour pouvoir se restaurer. Puis n'oubliez pas, à cette époque-là, il n'y a aucune hygiène. C'est-à-dire que dans votre appartement, vous êtes là empilés les uns sur les autres dans ces tout petits réduits, vous avez la cuvette à excréments, les eaux sales qui viennent, tout ça on le jette dans la rue, les rats, tous les infiniment petits, les puces, tout ça qui se répandent et qui viennent dévorer votre orable, c'est épouvantable. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, c'est le début de la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, lorsqu'elle se déploie, forcément, il y a les grands combats. Et entre deux combats, que se passe-t-il? Les Anglais, ils restent sur place. Ils vivent de quoi? Ils vivent de la rapine. Aller déferler. Et voilà.
Mais alors, quel rapport avec la peste?
Eh bien, simplement, ça montre quoi? C'est que vous avez des individus qui sont laminés physiquement, qui ne tiennent plus debout. Donc, la logique même...
L'immunité a disparu.
Il n'y a plus d'immunité. En revanche, j'ai cherché chez les noms qui font l'histoire. Y en a-t-il un emporté par la peste? Alors, peut-être que j'ai eu une petite lacune dans mon désir de rigueur, mais... Toujours est-il que j'ai pas vu 20 noms, 30 noms de gens célèbres emportés par la peste. Ça montre bien que ce sont les plus démunis, ceux qui n'ont rien, les gamins, dans des conditions telles que je viens de les décrire. Et forcément, vous êtes infiltrés par le fléau et vous en mourrez. Mais n'oubliez pas, même à Jaffa... À Jaffa, Napoléon, il va embrasser ses braves.
Les fameux pestiférés de Jaffa, tableau. Oui.
Napoléon, il s'en sort. Ce qui montre que quand vous avez un système immunitaire qui est vaillant, théoriquement, c'est le principe même. Sinon, l'humanité ne serait pas arrivée jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui.
Elle aurait disparu. Oui, mais alors, d'accord. Ça, c'est effectivement...
Ça, c'est la base.
La base,
c'est d'accord. La base de mon histoire.
D'accord. Et alors, justement, vous avez donc continué travers les siècles.
À partir de là, je dis, tiens, il y a quand même un sacré éclaircissement. Alors, voyons, parce que qu'est-ce qui vient à l'esprit tout de suite quand on parle vaccin? C'est Pasteur.
Bien sûr.
Alors
Pasteur,
qu'en est-il de la rage? La grande chance, c'est que Pasteur a des carnets de laboratoire. Il rédigeait tous les jours les expériences qui étaient les siennes. On a également Émile Roux, qui a été son principal collaborateur, celui qui était à ses côtés en tant que médecin, car lui, chimiste, n'avait pas le droit d'inoculer quoi que ce soit. Et puis, il y a Loire, qui est le gendre de Pasteur, qui est lui aussi l'un des chercheurs à ses côtés. Et là, on découvre des choses inouïes. La difficulté, déjà... Alors, Roux écrit, Ce qui paraît étonnant, c'est que M. Pasteur ait eu le désir de s'attaquer à la rage. Car à l'époque, les grands fléaux, c'est le choléra, la tuberculose. Mmh. Pourquoi choisit-il la rage alors que, malheureusement ou heureusement, elle est très peu répandue, ce que confirment des médecins comme Peter à l'époque, quand la nouvelle se répand que Pasteur envisage de trouver l'élément de lutte contre ce là, qui est présenté là, comme la maladie du diable.
Oui, mais,
car les symptômes sont terribles. Et c'est ça, dit Roux, il l'écrit, c'est que Pasteur estime qu'il y a là, pour lui, l'opportunité de démontrer que l'idée qui a germé dans sa tête et qui lui permettra d'avoir la postérité, là aussi je fais d'abord tout un chapitre où je montre, je fais une courte biographie de Pasteur, qui était un mauvais élève, mais il a des côtés très intéressants parce qu'on sent, c'est le fils d'un sergent de Napoléon, et il veut un jour, lui, être dans une sorte de gloire, marquer son époque, être des conquérants. Et donc... Oui. Pasteur se lance dans cette expérience de la rage. Mais il y a tellement peu de cas que dans un premier temps, on ne trouve même pas les animaux pour pouvoir inoculer à d'autres bêtes. On finit par aboutir à la possibilité de retirer ce magma, puisque on n'est pas avec le petit virus comme on le fait aujourd'hui. Et ça ne marche pas. Quand on essaie de transmettre aux chiens, ils guérissent tous. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible. Ils s'interrogent. Et là, c'est Roux qui trouve la solution. Il trouve la solution simplement en inoculant ce magma dans la dure-mère, c'est-à-dire en faisant un trou dans le crâne, et puis on injecte la dure-mère. Et là, enfin, ça se transmet. Je passe tous les détails, je les raconte dans le livre.
Oui,
mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, la transmission se fait, mais étant donné le nombre de chiens à massacrer pour réussir la répétibilité de l'expérience, on est isolé dans la forêt près de Paris pour que les gens... Il y a déjà des ligues contre la vivisection.
Les animalistes, le parti animaliste est là. Marc, maintenant on continue, c'est passionnant, on continue après cette petite pause, à tout de suite.
Et vous le voyez peut-être régulièrement à la télé, mais à la télé vous ne pouvez pas lui poser vos questions, donc vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et toujours avec Marc Menant, auteur de l'inquiétante histoire des vaccins. Et effectivement, quand on le lit, on se pose des questions. Enfin, Marc Menant, très bien, là, c'est ce que vous racontez sur Pasteur, la rage, la manière dont Roux, effectivement, ils ont trouvé pour les chiens, etc. D'accord, mais quel rapport avec le vaccin ?
Eh bien, on va arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Pasteur se dit, ça y est, maintenant, il nous faut passer à... la pratique. Passer la pratique. Alors, première démarche qu'il a, il prend contact, il envoie un courrier à l'empereur du Brésil et il dit, écoutez, si vous avez des condamnés à mort, vous leur promettez...
La vie sauve.
La vie sauve s'ils acceptent d'avoir le vaccin inoculé. Il n'y a pas de réponse. Et là, il se tourne vers différents hôpitaux à Paris. Je passe les détails. Il y a plusieurs expériences qui avortent. Ce n'est pas du tout de sa faute. Et puis, il y a ce que l'on a tous lu, qui nous a émerveillés quand on était gamin, le petit Alsacien, Mester.
Mester, oui, c'est ça. Oui.
Il arrive avec sa maman et le maître du chien au laboratoire de Pasteur. Ça fait plusieurs jours qu'il a été mordu, 14 morsures.
Le petit a été mordu, oui, c'est ça.
Le maître a été mordu aussi, mais on ne traite que le gamin. Alors, théoriquement... Pour être certain qu'il a la rage, on devrait faire un prélèvement de moelle épinière et d'inoculer ce prélèvement à des lapins, voir s'ils développent la rage ou non. Ce qui est une sorte de témoin, preuve indubitable. On ne le fait pas, et pendant 10 jours, Pasteur chaque jour à une inoculation. Je passe les détails, c'est très technique, je raconte dans le livre. Toujours est-il qu'effectivement, on considère qu'il est guéri, il repart. Notons qu'au passage, eh bien, le maître qui a été mordu, lui n'est pas traité, il ne développe rien. Là encore, il faut reprendre les écrits de Roux et de Pasteur. Dans 99% des cas, on a une réponse immunitaire à l'arrache. C'est-à-dire que c'est une maladie marginale. Péter, dis-moi, en 30 ans de carrière, j'en ai vu que 3 cas. Et en général, eh bien, il y a guérison. Autre intervention, même chose, succès. Et puis, il y a le troisième, le petit rouillé. Le petit rouillé, il a été mordu...
Mais Mester a été sauvé, le petit.
Non, il a été sauvé, on ne sait pas.
Ouais.
Je dis d'abord, parce que dans 99% des cas, il y a une réponse immunitaire.
D'accord.
A-t-il la réponse immunitaire ? Après, avait-il la rage, le chien, ou non, puisqu'il n'y a pas eu le test des lapins. Mais admettons que ça ait réussi, je n'en sais rien. Voyons maintenant le petit rouillé.
Oui.
Il est présenté à Pasteur, même chose, on traite. Et puis Pasteur, qui a été victime d'une attaque cérébrale, part se reposer en Italie. Et un mois plus tard, on apprend que le petit rouillé est mort. Panique au laboratoire, Roux intervient et demande au professeur Boisdel, qui effectue l'autopsie, il demande de pouvoir prendre un prélèvement de moelle épinière afin de faire le test, et il espère bien démontrer que le gamin n'avait pas la rage. Sauf que malheureusement, quelques jours plus tard, les lapins à qui on a inoculé ce prélèvement meurent de la rage. Donc il est bien mort de la rage, le vaccin n'a pas fonctionné. Boisdel, qui est un homme de science, il dit « mais c'est pas possible, Roux vous qui êtes dans cette expérimentation, est-ce que vous y croyez au vaccin ou pas ?» Et Roux dit « bah oui, j'y crois, mais je pense qu'on a traité avec trop de précipitation, on n'est peut-être pas encore assez au point. » Et Boisdel dit « écoutez, il nous faut mentir devant la faculté, parce que si on ne ment pas, c'est 50 ans de science qui s'effondre. » Et 2 mois après, devant la faculté, il se présente, Boisdel dit « L'autopsie a révélé que l'enfant était mort d'une occlusion intestinale. »
Mensonge incontestable et incontesté.
Ah bah, c'est écrit par Roux. C'est-à-dire, celui qui se rend coupable, de, il l'écrit. Donc moi, j'invente. Je vous ai dit, moi, dans ce livre, je n'invente rien. Je ne fais que colliger des événements. C'est de l'histoire. Et Boisdel, sinon je ne pourrais même pas donner les noms, Boisdel, donc, tient cela comme diagnostic, et Roux affirme, eh bien écoutez, les deux lapins, ils gambadent, ils sont toujours vivants. Et c'est comme ça que on fait passer l'histoire. Juste après, il y a un dénommé Smith, qui, lui aussi, meurt après avoir été
mordu.
Vacciné.
Ah, vacciné, oui, pardon.
Lui, il est mordu par un chat.
Oui.
Il meurt. Alors, nouvelle catastrophe. Pasteur est revenu d'Italie, dit « c'est pas possible, faisons une enquête, essayons de comprendre ». Et là, on s'aperçoit, dans une enquête de proximité digne de n'importe quel enquêteur de basse police, on s'aperçoit que ce Smith a pour grande maîtresse Dame Bouteille. C'est un alcoolique invétéré. Et alors là, Pasteur, mais dit « forcément ». Forcément.
Il est mort de voilà.
Quand on est un alcoolique comme ça, on a une physiologie totalement détériorée, donc le vaccin ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous voulez un dernier exemple ?
Allez, un dernier, pour la route, mais on va continuer.
Là. Oui. Quelques temps plus tard, arrive à l'Institut, enfin ce qui n'est pas l'Institut, au laboratoire, 19 moujiks. Ils ont été mordus par un loup. Vous imaginez, lorsque l'on part de Russie, dans ces années 1880, quelque chose comme ça. Le long parcours, le traumatisme, la peur d'avoir la rage, on marche, on est là, toutes les difficultés.
Ah oui, c'est pas tout près. En plus,
voilà. vous êtes laminé et ce moral qui joue un si grand rôle, n'arrange pas les affaires. Toujours est-il que Pasteur traite les 19 personnages. 3 meurent. Alors, on dit formidable, il en a quand même sauvé 16. Sauf que si on revient, là je c'est ma conclusion à moi, si on revient à l'hypothèse que 99% des gens ont une réponse naturelle à l'élimination de la rage, eh bien, qu'il y en ait 3 qui meurent effectivement, et les conditions qui les ont conduits jusqu'à Pasteur, leur physiologie n'a pas tenu, et le vaccin n'a rien changé donc à leur funeste destin.
C'est immunité naturelle qui protège, et pas forcément le vaccin. En tout cas, c'est la conclusion auquel vous êtes arrivé. On va en parler avec les auditeurs et Marc Menant.
Qui nous appelle au 0826 300 300, et vous prenez la parole dans 2 minutes à peu près.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous allons tout de suite à Oloron-Sainte-Marie avec Cathy qui nous appelle. Bonjour Cathy.
Bonjour Cathy.
Oui, bonjour André, bonjour Marc Menant.
Bonjour.
Et félicitations pour tout votre parcours intellectuel, que ce soit au point de vue spiritualité, santé, etc. Et votre honnêteté, voilà.
Merci.
Oui, alors justement à propos des vaccins, j'ai quelques dispositions et dès le mois d'avril 2020, on a commencé à parler de vaccins, pas de soins mais de vaccins. Hein. Et il m'est venu d'un coup, je me suis dit voilà, s'il y a un vaccin un jour contre le Covid-19, ben ça sera une vaste farce. Ça m'est venu comme ça. Et vous voyez où on en est. Voilà.
Vous pensez toujours que c'est une vaste farce.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Et que ça va continuer, mais bon, peut-être qu'on y croira un peu moins. Donc, je voulais, oui, à partir des vaccins, donc je voulais de la composition des vaccins donc actuels, je voulais savoir quelles sont les protéines, voilà. De quoi les vaccins sont composés de protéines, mais d'où viennent ces protéines, quelles sont ces protéines, voilà. Parce qu'à partir du moment où l'on ne sait pas exactement d'où vient la maladie du Covid, hein, on le suppose, on l'a dit, on a fait plusieurs machins, donc comment on peut imposer des protéines dont on ne sait pas au départ ce que c'est? Voilà.
Alors là, on ne va pas entrer dans la technique.
Dans les détails, parce que...
En l'occurrence, vous pensez à la fameuse spike, etc. Mais ça, c'est un élément d'entrée. Ce qui permet de... C'est pas dans la composition du vaccin. Si vous prenez tous les vaccins, le grand drame, entre autres, c'est que si on revient au vaccin classique, si vous inoculez simplement un élément de virus, soit mort, soit, si on peut dire mort, vivant, puisqu'un virus en tant que tel n'est pas vivant.
C'est un élément du virus.
Voilà. Mais ça ne réagit pas. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre des adjuvants. Et les adjuvants en eux sont toxiques. Le grand problème vient de là. Si je reste sur la notion de Pasteur pour bien comprendre pourquoi il peut y avoir une suspicion légitime, toujours à partir des travaux de Pasteur. Pasteur avait travaillé sur une maladie du charbon qui emportait les ruminants du côté de Chartres. Il est appelé par Napoléon III pour intervenir là-bas. Il regarde ce qui se passe et il s'aperçoit que deux champs, l'un à côté de l'autre, il y a les vaches qui sont là, qui gambattent, qui sont en pleine santé, puis à côté, il y a une partie du cheptel qui meurt. Et il s'aperçoit aussi, parce que c'est quand même un homme qui a le sens de l'observation, etc., il dit, mais pourquoi il y a pas la même couleur d'herbe à tel endroit? On dit, parce que c'est là que l'on enfouit les bêtes qui sont crevées. Bien sûr. Il dit, mais... Il faut changer ça. Il arrive, là encore, c'est détaillé dans le livre, pour montrer comment les vers de terre font remonter les bactéries. Toujours est-il que sa conclusion, c'est qu'à la fin, eh bien, même si vous mettez une bactérie qui est contagieuse au contact de l'animal, vous l'essaimez dans le foin, ça ne marche pas. Si vous mettez des plantes qui sont des plantes, vous savez, un peu tranchantes, qui entament les gencives, eh bien, ça ne change pas non plus, sauf dans certains cas. Il arrive à cette conclusion, eh bien, quel que soit le germe, il n'est pas un problème en lui-même, il faut des circonstances pour que ce germe devienne contagieux. Ce qu'il oubliera complètement quand après il passe à l'expérimentation humaine.
Mmh. Oui, vaste, vaste programme ça, Augustin.
Cathy, vous vouliez réagir, je vous entends.
Oui, en fait, c'est aussi un gros problème d'hygiène au départ. On a,
bien sûr.
Et un gros problème de proximité, d'hygiène, et voilà.
Et de prévention, surtout. Et de prévention.
Voilà. Et ce dont on apprenait à l'école avant. Maintenant, on n'apprend plus rien, mais on apprenait le béaba de l'hygiène et le respect des autres. Bon, ben, si déjà on fait ça, on élimine beaucoup de choses.
On est bien d'accord.
Merci beaucoup, Cathy. Nous sommes maintenant avec Marc, qui nous appelle de Paris. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour, Marc.
Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Marc Menon.
Bonjour.
Voilà, vous êtes tous merveilleux à Sud Radio. Là, juste une question. Monsieur Menon, c'est passionnant votre truc sur l'histoire, mais avez-vous fait une étude sur les vaccins ARN et sur les vaccins virus Covid atténués? Parce qu'effectivement, on nous a balancé le Janssen comme ça, même quatrième dose, alors qu'en fait, il y a des vaccins atténués comme le Janssen par exemple. Et à ce propos... on a dit qu'on l'enverrait dans les pays d'Afrique et tout. En réalité, la Haute Autorité de Santé l'a autorisé, ma sœur a fait des recherches. Le 15 décembre 2021, il est à nouveau autorisé, mais on ne le trouve pas. Par ailleurs, Valneva, un laboratoire français, puis un autre dont j'ai perdu le nom, dans la région de Nantes, ça c'est M. Berkov qui nous l'a appris, a mis au point ce vaccin virus atténué qui marche très bien, qui est actuellement, qui a été étudié tout ça, et qu'on ne trouve pas non plus. Alors, est-ce que vous avez fait des études sur les vaccins ARN, est-ce que vous êtes au courant pour ces nouveaux vaccins atténués, genre Valneva, et pouvez-vous nous dire enfin la différence notable entre les deux, et surtout la sécurité avec les vaccins atténués? Voilà.
Non, parce que là, les vaccins qui concernent la Covid sont expérimentaux jusqu'en 2023. Moi, je fais de l'histoire. Donc il faudrait...
Ah, vous l'avez pas traité de ces vaccins-là.
Voilà, moi je ne vais pas faire... Ça, c'est l'immédiateté. Alors je fais un court chapitre sur le Covid, rappelons simplement les promesses. Avant même que les vaccins soient créés, on nous disait « vivement la panacée, c'est ça qui va nous sortir ». Et quand les vaccins ont été mis sur le marché, on nous a clamé « vacciner » et vous êtes à ce moment-là « guéri », entre guillemets, vous ne risquez plus rien et la contagion s'arrêtera. On s'est aperçu que non seulement le vaccin n'empêchait pas de développer la maladie, qu'il n'empêchait pas la contagion, et puis il a fallu une deuxième dose, on a raccourci à 4 mois, puis une troisième dose, maintenant la quatrième dose. Donc là, je dirais que les promesses ne sont pas tenues. Mais moi, à part reprendre quelques éléments comme ça, rappeler aussi quelques effets secondaires et les conséquences de l'abus sécuritaire, le port du masque avec les enfants qui subissent des préjudices de quotient intellectuel. Il y a un mois et demi, une lettre ouverte.
Oui, ça c'est pour les masques, surtout.
Voilà, pour les masques. Voilà.
Absolument.
Et où on s'est aperçu que les enfants avaient perdu une capacité intellectuelle par rapport à tout ça. Mais donc, mon propos, moi, c'est comment, avec l'histoire, je m'interroge sur les vaccins et si on parle de la tuberculose, la polio, etc., eh bien, comment on peut avoir une suspicion légitime ?
Oui, mais alors justement, Marc Menon, moi j'ai une question et je suis sûr que beaucoup, beaucoup d'éditeurs se la posent. C'est que ce qui est intéressant, mais encore une fois, l'historien que vous êtes, l'écrivain que vous êtes, pose des questions et remet en question, encore une fois, ce qui est votre droit le plus strict. Enfin, tout ce qui est polio, poliomyélite, Jonas Salk, le tétanos, la fièvre jaune, la rage, on a tous été, enfin beaucoup d'entre nous ont été vaccinés à cela. Vous vous dites au fond, je ne suis absolument pas sûr, c'est le moins qu'il faut se dire d'un bouquin, de l'efficacité de ces vaccins quant à l'empêchement d'avoir, si j'allais en Afrique par exemple, je prends un exemple très précis, il y a la fièvre jaune, le tétanos, moi je sais, il y avait un certain nombre de vaccins qu'on avait. Vous vous dites, oui mais en fait, ça servait à rien, ou presque.
Ben non mais... Là encore, moi, je ne dis rien.
Non, mais vous le
je
vous
prends
le pouvez,
à chaque oui. fois oui. Le créateur du vaccin. Comment on isole soit le bacille, le virus, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une fois qu'on a isolé, on arrive à la conception d'un vaccin ? Dans quel contexte se trouve-t-on ? Tout à l'heure, notre auditrice parlait de l'hygiène. Ne jamais oublier les conditions épouvantables qui étaient celles des conditions de vie des uns et des autres. À partir de là, la fragilité de nos organismes. Et comment, dans ces circonstances très particulières, c'est pour ça que j'ai essayé de résumer un peu ces expériences oui, que je développe sur Pasteur, qui lui-même disait, ben voilà, il faut quelque chose de plus pour qu'à un moment donné, le Lilliputien vienne nous contaminer et nous être néfaste. La tuberculose.
J'ai une question.
Oui, allez-y.
Pardon.
Oui, allez-y.
Oui, j'ai une question, monsieur Menant. Si vous vous souvenez, dans un premier temps, en mars, fin février, mars, avril, en 2020, les consignes étaient « rentrez chez vous, appelez le 15 quand ça ne va pas ». Bon, beaucoup de gens, à un endroit où je travaille dans une clinique, ont traité déjà. Et par contre, là, on attendait, et au bout de 10 jours, il y avait des complications. Donc, on ne peut pas en vouloir à M. Philippe Gevin d'être à fond sur la vaccination. Malheureusement, il a eu tous les malades qui avaient les complications. Alors qu'à Marseille, il y avait 4 fois moins de gens en réa, et parce qu'en fait, on a traité plus tôt.
Oui,
alors, il est clair que M. Gevin a raison, il n'y a pas de vrai traitement. Par contre, ça empêchait les complications. Et déjà,
oui, on sait. Oui.
Voilà, c'est pour rappeler ça. Donc, la question, est-ce que le fait d'avoir isolé les gens pendant 10 jours chez eux, avant qu'ils appellent ça diffusait.
Bien sûr. C'est une autre question, ça. Et ça, d'accord. C'est une question où la polémique a été là, effectivement, et vous avez raison de la poser. Non, il faut revenir. Revenons à l'histoire du vaccin. Moi, je voudrais juste, Marc Menard, donnez-moi un autre exemple par rapport.
La tuberculose.
Voilà. Prenons la tuberculose, par exemple. Ben, vous vous dites, écoutez, il y a beaucoup de gens qui, heureusement, qu'il y a eu un vaccin contre la tuberculose, vous vous dites, c'est pas le problème.
Ben non, parce que, c'est pas. Là encore, je ne dis rien.
Non, quand je dis
rien. Non, mais c'est vachement important. Ouais. Pardon pour le vachement.
pas grave.
Il se trouve que le vaccin interviendra lorsque. Comment...
Pour la tuberculose.
Oui,
hein,
la tuberculose, c'est le fameux BCG. Bon. Il intervient alors que, depuis un certain temps déjà, on a commencé à traiter les cas simplement par les sanatoriums. Ça nous vient d'Allemagne. C'est le fait de placer les gens dans de meilleures conditions d'hygiène, au soleil, où ils captent la vitamine D, etc., ouais. etc., la maladie en elle-même, l'épidémie diminue. Et quand on regarde aussi les cartes où se manifestait la tuberculose, c'était avant tout dans les quartiers qui étaient de véritables taudis. Là, on était toujours dans cette promiscuité, dans des conditions lamentables. N'oublions pas que les enfants travaillaient dès l'âge de 5 ans.
Et dans les mines et ailleurs.
Ils travaillaient 16 heures par jour. Donc, vous voyez bien, dans les années 1830, c'est Guillermé, le médecin, qui dit « Mais nos jeunes à 27 ans sont des vieillards épuisés. » Donc, la tuberculose va disparaître grâce à, au sanatorium.
Ouais, au sanatorium.
Le vaccin est mis au point par Calmette Guillermé. J'ai oublié son nom. Enfin bref. Et lorsque ce vaccin est au point, c'est aux environs de 1921. Là encore, on va un peu vite pour l'expérimentation. On fait d'abord le premier cas traité. C'est un petit bambin, un nourrisson dont la mère est morte de la tuberculose. Alors on dit, voilà, il faut traiter l'enfant. On traite l'enfant, mais on ne sait pas s'il l'aurait développé, pas développé. Toujours est-il qu'on considère que c'est un succès. Très rapidement, il va y avoir des polémiques. En 1928, on retrouve Roux. Il y a une conférence qui est menée...
Parce qu'il
est devenu le patron de l'Institut Pasteur, etc. Et on en arrive à la conclusion que le vaccin a des résultats extrêmement relatif. Ça sera confirmé par une autre étude 15 ans plus tard. Mais le vaccin devient obligatoire en 1964.
Ah oui. Obligatoire.
Voilà.
Oui. Comme les autres.
Vous voyez bien, il n'y a pratiquement plus de tuberculose. Mais dans le même temps, n'oubliez pas, on vivait dans les bidonvilles. Les bidonvilles commencent à régresser au début des années 60. C'est-à-dire que c'est toute une structure de vie.
C'est l'environnement.
C'est l'environnement qui joue. On ne peut pas prendre comme ça et dire, vous voyez, pof. Bah oui, c'est juste... Un petit argument au milieu de multiples arguments.
Bien sûr. Augustin.
Écoutez, bon, en tout cas, selon une étude très fiable appelée Sud Radio pendant Berkov, dans tous ses états, est excellent pour la santé. On a des auditeurs qui peuvent témoigner. Donc on se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Montpellier cette fois avec Jean-Charles qui nous appelle. Bonjour Jean-Charles.
Oui, bonjour Jean-Charles. On vous écoute.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité. Voilà, moi je voulais prendre la parole déjà pour dire que c'est très bien de parler des vaccins. Et ensuite, je voulais parler de deux personnes qui sont malheureusement oubliées et qui sont deux grandes personnes qui ont vécu en France. La première, c'est Antoine Béchamp, qui était contemporain de Pasteur, qui a découvert les microzymas et dont le maître mot était l'immunité naturelle.
Oui.
Et la deuxième personne, c'est Michel Georget, qui est décédé en 2019, qui était enseignant, et qui a écrit deux magnifiques livres que je conseille à tout le monde. Mmh. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
D'accord, mais merci. C'est toujours bien de donner des informations et de donner des livres qu'il faut lire. Michel Georget. À retenir.
Antoinette, cette fois, qui nous appelle du Lot. Bonjour Antoinette.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Antoinette.
Voilà, bon, merci de prendre mon appel. Je voulais vous parler d'un autre livre du docteur Éric Ancelet, dont le titre est « Pour en finir avec Pasteur ».
Mmh,
un siècle, oui. Un siècle de mystification scientifique. Excellent livre pour comprendre toute cette manipulation qui date depuis au moins un siècle. Mm-hmm. Voilà, excusez-moi, je suis un peu émue, mais j'aurais aussi voulu parler des mensonges, parce qu'en fait, dans ce que vient d'évoquer Marc Menant, il parle bien des mensonges pour protéger Pasteur, pour protéger toute cette industrie pharmaceutique. Et c'est encore ce qu'on est en train de vivre actuellement par rapport à l'injection du Covid. Parce que pour moi, ce n'est pas un vaccin. Et voilà. Donc,
D'accord. Oui, vous parlez des mensonges, effectivement. Marc Menant.
Oui, non, alors je voudrais dire, c'est là où il ne faut pas tomber. Quand je raconte tout à l'heure l'imposture de Pasteur, c'est pas... on va tricher. À l'époque, on n'est pas dans la grande industrie voilà,
c'est
on est simplement...
C'est pas encore Moderna et compagnie.
Voilà, on est simplement dans notre obsession d'entrer dans le monde du progrès et comment, grâce à la science, on peut échapper à nombre de fléaux. C'est-à-dire qu'on se trompe tous. Mais vous savez, si demain, il n'y a pas les vaccins, l'industrie pharmaceutique, elle fera autre chose, même si demain, parce que je traite aussi de tous les médicaments, des grands drames, de le Vioxx, enfin, ce sont des milliers de morts. Hein, bon, mais
bon, on ne va pas évoquer certains laboratoires français et d'autres.
Le propos n'est pas là. Il ne faut pas oublier qu'au départ... vous avez des gens qui sont formés par l'université selon une doctrine. Et cette doctrine, enfin, c'est-à-dire un raisonnement, un axiome de la maladie qui vient nous envahir et on essaie de justifier tout ce qui est la recherche de médicaments, mais c'est pas en disant qu'est-ce qu'on peut fabriquer pour les faire crever. C'est-à-dire que c'est un concept médical qui a été mis en place et où les uns et les autres, en suivant leurs études, ne font qu'appliquer le principe qui leur a été inoculé. Donc, faut pas non plus voir les gros salopards qui ne pensent qu'à une chose, à nous faire disparaître. Ils sont les opportunistes d'un système qu'ils nourrissent, mais sinon on tombe dans le complotisme, etc.
C'est pas du tout mon propos. C'est simplement que j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle d'être en contact avec des médecins, etc. Et juste que vous avez relevé l'importance de l'immunité.
Bien sûr.
Et effectivement, si cette immunité était favorisée, eh bien, il y aurait beaucoup moins besoin de médicaments. Mais malheureusement, il faut quand même savoir que certains médicaments ne sont pas faits que, soi-disant, pour guérir. Voilà, sans être complotiste. Voilà. Donc,
non, mais après,
c'est
vous
aussi
savez,
une réalité. Et c'est, je ne tenais pas, je ne voulais pas amener ce propos. Je voulais juste dire, en parlant de mensonges, de faire attention juste. Pourquoi d'un seul coup il y a le Covid? Pourquoi d'un seul coup il y a le sida? Est-ce à qui ça rapporte? Voilà, c'est juste ça.
C'est vrai. Enfin,
se poser la question.
Non, la question. Vous avez raison. Bien sûr, mais enfin, il ne faut pas dire par là que le sida est provoqué par des gens qui ont envie que. Vous savez, tout le problème est de garder la mesure entre guerre bactériologique, entre etc. Bien sûr qu'il y a le profit, qu'il y a tout cela, etc. Bien sûr, mais c'est une question autre. Le problème important, je crois que soulève Marc Menant dans son livre, notamment. C'est de dire, attention, vive l'immunité naturelle, vive les bonnes conditions de vie.
Et en sachant, par exemple, qu'en se gavant de sucre comme on se gave de sucre, on affaiblit notre système immunitaire, donc il n'y a plus de réponse. Donc il y a des questions à avoir sur nos comportements.
De toute façon, Marc Menant, il faut avoir question à tout. On n'a pas réponse
à
tout.
Voilà.
Mais il faut avoir
c'est
question à tout.
C'est ça qui est important. Et c'est unanimité qui aboutit, parce que c'est là le grand drame, c'est qu'à la fin, vous avez, pardon, même si ça offusque certains, une dictature médicale qui s'est mise en place et qui maintenant entend régir nos vies. On nous a dit, il faut mettre le masque. Alors que dans un premier temps, il était affirmé que le masque ne servait à rien. Du jour au lendemain, Palinodi, on dit « mais c'est ça qui vous protège ». On voit bien que ça n'a pas protégé, puisque masque, gel, vaccin, etc. Et ça a continué à se propager. Mais il n'y a pas eu en plus la moindre étude scientifique pour vous dire que ce qui était affirmé hier, que le masque ne servait à rien, il y a pas, on ne vous a pas dit, dans le New Jersey, à tel endroit, voilà l'élément qui a été mis en évidence par des chercheurs qui montrent que grâce à ça, vous êtes protégé.
Mais cher Marc Menant, vous aurez dû mettre en exergue de votre livre la phrase immortelle de Jules Romain dans Knock.
Ben voilà.
Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore.
Mais je commence par ça dans le livre et je termine par Molière, le malade imaginaire.
Mais bravo.
L'inquiétante histoire des vaccins, vous le voyez à l'écran, le livre de Marc Menant aux éditions Plomb. Et puis tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lay jusqu'à 16h.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.